Bienvenue à tous dans ce dernier épisode d'Accès MRC 2021. Et j'ai avec moi pour ce dernier épisode Monsieur Alexis Brunel-Duceppe, notre député dans Lac-Saint-Jean. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va extrêmement bien.
Oui, j'ai le goût de demander ça parce qu'on dirait que ça va vite aussi. Il se passe pas mal de choses, hein?
Bien, ça n'arrête pas. J'étais à Prague pas plus tard que là, une semaine pour un congrès mondial là, international des Ouïghours.
Oui.
On recommence à Ottawa la semaine prochaine, lundi prochain, donc avec l'élection du président, le discours du trône et la relance du calendrier parlementaire. Et il y a une multitude de dossiers régionaux dont il faut s'occuper. Donc, franchement, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Là.
J'imagine, parce qu'on dirait que, bon, avec la pandémie, tout a un peu ralenti. Et là, tout revient un peu rapidement.
Oui, non, c'est exactement ça. Et tout revient rapidement, sauf que la pandémie n'est pas encore jugulée complètement.
Non.
Donc, faut quand même continuer à vivre avec ça, tout en espérant ouvrir des grands pans de notre économie. Donc, et socialement, et économiquement, et à plusieurs niveaux, au niveau sportif aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis présentement. Et nous autres, comme députés, comme bureau de députés, on s'assure qu'on fasse bien les choses puis qu'on aide nos concitoyens et concitoyennes.
Et à travers tout ça, une élection aussi cette année.
Effectivement. Une élection. Oui, une élection qui n'était pas nécessaire. Je pense que ça, tout le monde, c'est un constat qui est assez... C'est un consensus, je pense, là, surtout avec le résultat qu'on a connu. Je ne pense pas qu'on va revivre ça dans une élection fédérale au Québec parce que les 78 comtés québécois... Sur ces 78 comtés-là, il n'y en a pas un qui a changé de couleur de parti. Donc, on arrive absolument au même résultat que celui de 2019. Donc, quand on dit que c'était pas nécessaire, M. Trudeau nous a lancé dans une élection en pleine pandémie, alors que justement, il y avait des questions beaucoup plus importantes à régler. Le Parlement fonctionnait. On était capable de mener à bien des projets de loi dans une collaboration, vu qu'on était dans un gouvernement minoritaire. On se retrouve au même endroit aujourd'hui. En bout de ligne, je ne pense pas que les gens soient si contents que ça d'avoir été en élection dernièrement.
Probablement pas. Ça aussi, on dirait, un peu modifié la ligne temporelle en ce sens où ça ne fait que 2 ans que tu es en poste. Et là, il y a eu comme une autre élection, fait qu'on dirait que ça n'en fait plus que ça, mais au final, ça fait 2 ans.
Ça fait seulement 2 ans, mais c'est mon deuxième mandat.
C'est ça.
Donc, effectivement, là, on ne s'attendait pas à... Mais là, je pense, par contre, là, je pense que le gouvernement a compris qu'on ne doit pas s'en aller à une élection d'ici les 2 prochaines années.
Ouais.
Et là-dessus, ils peuvent être certains d'avoir la collaboration du Bloc pour faire avancer des dossiers et pas nous plonger inutilement dans une énième élection qui, je pense que là, les citoyens et citoyennes seraient vraiment pas contents, déjà qu'ils étaient pas contents de la dernière. Là. Donc là-dessus, je pense qu'au moins, ce gouvernement-là, on est capable de faire en sorte de respecter le mandat de 4 ans que la population nous a donné. Et il faut que le gouvernement comprenne que c'est la population qui a donné ce mandat-là à ce Parlement-là d'être un gouvernement minoritaire. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement n'a pas le choix de collaborer avec les partis d'opposition et vice-versa. Nous autres non plus, on n'a pas le choix. C'est aussi le mandat que la population nous a donné. Donc, il faut être responsable, il faut être conséquent et il faut surtout faire en sorte que le choix de la population soit respecté.
Et justement, parlant de choix de la population, quand même plus de 50 % d'appui dans le comté. C'est quand même une belle marque de confiance, même si on n'en avait peut-être pas besoin à ce moment-là, mais c'est quand même venu conforter que le travail fait était visiblement le bon, hein, puisqu'on vous a redonné ce mandat-là ici.
Oui, bien c'est ça, on a augmenté notre majorité en pourcentage et en nombre de voix. Je remercie les gens de Lac-Saint-Jean de me refaire confiance. Évidemment que pour moi, c'est une grande fierté d'avoir si gros pourcentage, parce que à quelque part, c'est pas un beau cadeau, c'est une preuve de confiance. Je pense que le lien de confiance qu'on entretient, la population de Lac-Saint-Jean et moi et le bureau du député, parce que j'ai une solide équipe avec moi, là, c'est extrêmement important. C'est la base de toute action politique. Avoir la confiance des gens, c'est le plus important en politique. Et je pense que c'est la preuve qu'on est connecté avec notre milieu. C'est un grand comté. C'est le troisième plus gros au Québec, avec différents enjeux, parce qu'on a quand même 3 MRC avec des différents enjeux. Mmh. Donc, il faut absolument être justement connecté avec le milieu, avec le terrain, puis faire attention de ne pas tomber dans une espèce de bulle parlementaire ou de bulle de députés. C'est le plus grand danger qui guette la plupart des élus, c'est de perdre le contact avec le terrain.
Okay.
Et ça, je m'en fais vraiment... c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. On a basé, nous autres, notre action politique sur 3 mots, étant présence, communication, mais accessibilité aussi. Mm-hmm. Donc, les gens savent qu'ils peuvent me parler en appelant au bureau. On prend souvent les numéros de téléphone. S'ils ont absolument besoin de parler aux députés, bien, moi, je vais les rappeler. Puis pour moi, ça, c'est super important.
Et vous avez ici dans notre MRC aussi le bureau mobile,
oui,
qui est une initiative qui était surprenante au départ, mais qui a l'air de très bien fonctionner.
Puis qui est très appréciée. On mm-hmm. s'en rend compte, là, ça a recommencé le 9 novembre. Mm-hmm. On a repris les ententes avec les municipalités et on a déjà recommencé et on a déjà beaucoup d'appels au bureau parce qu'on vient de sortir les calendriers là, que vous pouvez trouver sur nos sites Facebook ou en appelant au bureau. Puis on l'a diffusé aussi dans différents médias. Donc, à partir du moment où on a diffusé notre calendrier, on s'est mis à recevoir beaucoup d'appels au bureau pour que les gens prennent rendez-vous lorsque le bureau mobile sera dans leur municipalité. Et c'est vraiment une grande fierté. Et là-dessus, là, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Toute l'équipe au bureau, parce que c'est de la logistique aussi, oui, là, organiser tout ça. Toute l'équipe au bureau s'est donnée à fond la caisse là-dedans pour qu'on puisse remettre en place rapidement le bureau mobile. Puis on a réussi. C'est une grande fierté.
Bien, ça a réussi aussi à aller chercher toutes les grandes villes, mais les plus petites communautés aussi.
Exactement.
Ce qui ne serait pas nécessairement le cas si on avait comme un ou deux bureaux. Fait que...
Non, on est unique. On est unique comme comté. J'espère éventuellement que ça va faire des petits. Puis là, ben, je parle pas juste au Québec. Si ça peut influencer des députés qui ont le même genre de comté que moi en Saskatchewan ou en Alberta, tant mieux. L'idée, c'est de faire en sorte d'être plus accessible, d'être présent. Donc, c'était ça à la base, le bureau mobile.
J'ai parlé ici à mon émission avec des gens de tous horizons cette année, puisqu'on a eu des élections municipales. Donc, j'ai fait beaucoup d'entrevues municipales. J'ai parlé aussi avec Mme Nancy Guillemette, qui est notre députée au provincial. Et là, j'ai avec toi aujourd'hui au fédéral. Et j'ai posé un peu la même genre de question à chacun des élus, c'est-à-dire expliquer un peu aux gens comment vous pouvez agir sur leur vie à eux. Hein, parce que des fois, on sait qu'au municipal, c'est directement dans la ville. Bon, tu sais, on y va en grandissant. Des fois, c'est mêlant peut-être pour les gens, là, à quel niveau vous avez de l'impact, là, vous, en tant que député fédéral?
C'est certain que des fois, les gens voient le gouvernement fédéral comme étant très éloigné mm-hmm. de leur quotidien. Alors, en fait, on peut agir dans leur quotidien lorsque, par exemple, écoutez, il y a des services qui sont offerts pour l'assurance-emploi, pour l'immigration, pour les demandes de pardon, pour la pension de vieillesse. Tout ça, évidemment, nous, on aide les gens à faire avancer leur dossier puis à régler leurs problèmes qu'ils ont avec différents ministères. Ça, c'est une chose. Mais après ça, comme député, il faut s'impliquer dans le milieu, comme je le disais tantôt. La pire affaire qui peut nous arriver, c'est d'être déconnecté. Donc, on a mis sur pied le bureau, la table de concertation sur l'immigration, entre autres, parce qu'on va parler de pénurie de main-d'œuvre éventuellement, mais il faut donc parler d'immigration par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est une chose très importante. Moi, je peux développer des projets comme le projet de réserve à Saint-Félicien sur lequel je travaille avec M. Luc Gibbons. Une nouvelle qui a été renouvelée dans son mandat là, à la mairie de Saint-Félicien. Bien, ça, c'est un projet qui est présentement à l'étude au ministère de la Défense. Puis on espère qu'en bout de ligne, ça sera bon puis que ça va fonctionner. Mais c'est pour ça que le bureau mobile existe. Mm-hmm. C'est justement pour être le moins loin possible des gens comme député fédéral. Et à ce moment-là, bien, nous, on fait de la représentation, bien évidemment, mais on va aussi aller voir les gens sur le terrain, on va participer au plus grand nombre d'événements possibles, aider le plus grand nombre d'organismes communautaires possibles. Si on le fait, je les ai rencontrés, je pense que sur 200 organismes, là, j'ai rencontré 115 ou 120 organismes jusqu'à présent. Les organismes qui n'avaient jamais rencontré leurs députés, et qui m'ont dit que c'était une première, cette demande-là, parce que ça venait du bureau, cette demande-là. Mais ces gens-là sont en première ligne, sont sur le terrain, souvent avec des gens qui traversent une mauvaise passe. Et ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Hein? C'est pas juste des organismes qui font de la lutte à la pauvreté. C'est mm-hmm. surtout avec la pandémie, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement précaires à cause de la pandémie. Donc, c'est des organismes de première ligne qui ont dû être extrêmement... qui ont fait des interventions extrêmement importantes. Sans eux, il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient pas où donner de la tête présentement. Donc, ça, on l'a fait. Puis, à ce moment-là, bien, on a l'écho du terrain. Et pour nous, bien, c'est sûr que ça valorise notre travail d'être en lien avec ces organismes-là. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. Comme député, on va pousser des dossiers, bien évidemment, la forêt. Bien, la forêt, on est en train d'organiser, Mario Simard et moi, un colloque sur la forêt nationale avec des intervenants de tous les milieux pour valoriser la deuxième, troisième transformation. Mm-hmm. On travaille extrêmement fort là-dessus. On sait qu'on est positionné, le lac Saint-Jean, on est une des plus belles régions, premièrement, mais on est une des régions qui est la mieux positionnée pour participer à la transition vers une économie verte. La forêt, c'est une ressource renouvelable, c'est un puits de carbone. Puis, on fait des choses avec la chimie du bois aujourd'hui. On peut remplacer des produits du pétrole avec des produits du bois. Donc, il faut regarder ce que le gouvernement fédéral présentement a fait. C'est qu'il finance l'industrie gazière pétrolière, puis il ne donne pas une scène à la forêt, à recherche et développement, en développement de la deuxième, troisième transformation, ce qui est complètement absurde si on nous dit qu'on veut une stratégie de plan vert, comme ils l'appellent. Donc, à quelque part, soyons conséquents, arrêtons d'acheter des pipelines, puis développons ce qui est bon pour l'environnement, c'est-à-dire l'industrie forestière. Puis à ce moment-là, bien, la région est vraiment bien positionnée. Puis vous pouvez compter sur moi et sur Mario et sur tous les élus du Bloc, d'ailleurs, pour pousser le dossier du bois, ça c'est sûr et certain.
Qui est particulièrement important aussi dans notre MRC, c'est une de nos économies premières. On a aussi l'agriculture qui est très importante par ici, de plus en plus le tourisme aussi qu'on aimerait peut-être plus développer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec nous, la MRC Maria Chapdelaine, là, dans les quatre prochaines années? Ce serait quoi les dossiers prioritaires?
Bien déjà, la pénurie de main-d'œuvre, ça nous fait mal. Mm-hmm. Ça nous fait extrêmement mal, et en tourisme et en agriculture aussi. Vous l'avez vu, là, écoute, il y a des agriculteurs qui m'ont appelé, là, des amis, qui m'ont dit « Écoute, Alexis, je vais être obligé de laisser pourrir dans le champ, j'ai personne pour ramasser. » Et ça, c'est extrêmement grave.
Ben oui.
Quand on parle, en plus, quand on se dit qu'il y a des lacunes au point de vue alimentaire pour certaines personnes, non seulement on perd cette nourriture-là, cette culture-là, mais en plus de ça, bien, l'agriculteur en question va perdre des revenus. Et là, ça, c'est un point majeur. Et souvent, on parle du programme des travailleurs temporaires étrangers. C'est un dossier fédéral. Et nous, on se dit, il y a tellement de délais, c'est tellement compliqué pour nos agriculteurs, mais aussi pour plusieurs autres, dans plusieurs autres domaines aussi, là. C'est tellement compliqué. On se dit, il y a trop de délais. Et Québec, si on harmonisait ce programme-là avec Québec, ça serait beaucoup plus simple. Québec pourrait déployer ce programme-là. Ils le demandent, d'ailleurs. Mm-hmm. Et nous, on veut absolument que ce soit Québec qui gère ce programme-là. Ça va nous éviter beaucoup de délais. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça va être bon pour tout le monde. Mais encore une fois, Ottawa est du genre à agir en « Ottawa knows best », qu'ils disent. Là. On sait mieux comment faire, puis on va le faire à votre place, mais en bout de ligne, ça provoque des délais, puis ça fonctionne pas. Et là, il y a des gens qui savent même pas s'ils vont être capables de récolter l'année prochaine. Mm. C'est complètement fou. Ça, faut travailler ça. Et maintenant que je suis porte-parole en matière d'immigration, c'est un clou sur lequel je vais taper, mais je vais y aller en proposant des solutions. Faut pas juste s'opposer pour s'opposer, faut proposer. J'ai été reconnu à la Chambre des communes comme quelqu'un qui est capable de travailler de façon transpartisane. C'est avec cet angle d'attaque-là que je vais me présenter à Ottawa en me disant, avec le nouveau ministre qui est en place, je vais lui laisser sa chance en proposant des solutions puis en étant capable de se parler. C'est pas parce qu'on est deux différents partis qu'on n'est pas capable de se parler. Il y a des propositions qui vont fonctionner. S'il y a de l'écoute de l'autre côté, je suis convaincu qu'on va arriver à des solutions qui vont être bonnes pour tout le monde et surtout pour les gens de Lac-Saint-Jean.
Oui, puis on parlait un peu de pénurie de main-d'œuvre ici dans notre MRC. Quelque chose qui inquiète beaucoup les gens, c'est le manque de services hospitaliers qui pourrait éventuellement survenir. Ça a été déjà le cas. On a déjà été à découvert l'hôpital de Dolbeau sur certains secteurs. Ça inquiète beaucoup. Je sais que c'est peut-être moins du ressort fédéral, mais il y a certainement des choses qui pourraient être faites.
Bien, le levier principal au fédéral, c'est les transferts en santé. Mm-hmm. Donc, c'est pas compliqué. Le fédéral, lorsque la loi a été faite en 58, parce que l'année de la loi sur la santé, je pense que c'est 58, le fédéral devait débourser 50 % des coûts du système de santé. Il devait transférer cet argent-là aux provinces qui, elles, fait la gestion de la santé. On est rendu à peu près 22 % des transferts fédéraux en santé, ce qui n'a pas de maudit bon sens. En fait, le fédéral a équilibré son budget en coupant dans les transferts en santé. Mm. Mais par contre, c'est de sa responsabilité. C'est dans la Constitution qu'ils ont rapatrié. Vous ne verrez pas souvent un souverainiste défendre la Constitution canadienne, là. Mais dans la Constitution canadienne, c'est écrit noir sur blanc. Le fédéral doit donner 50 % transférer 50 % des coûts en santé aux provinces. On est rendu à 22 % Les premiers ministres des provinces et des territoires demandent 35 % une hausse à hauteur de 35 % de transferts en santé, et ça de façon récurrente. C'est une demande unanime des provinces et des territoires. Donc, du Québec, des provinces et des territoires. Nous autres, on se fait le porte-voix de ça. Ottawa ne doit pas donner de conditions à ce transfert-là, puisque c'est pas ça qui est écrit dans le contrat. Il doit simplement faire sa job et transférer l'argent. On ne lui demande pas grand-chose. On lui demande juste de faire le chèque comme le contrat le stipule. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr que ça va aider Québec à être mieux, à être plus en mesure de gérer le dossier de la santé. Parce que c'est le portefeuille qui coûte le plus cher, c'est le ministère qui coûte le plus cher au Québec. Mais l'argent du fédéral ne vient pas. En ayant, écoutez, c'est plusieurs milliards de dollars là, par année pour le Québec pour gérer la santé. Le fédéral, il faut qu'il arrête de pointer du doigt en disant vous ne savez pas gérer la santé. Et c'est sûr que si on nous coupe l'eau au moulin, le moulin ne tournera pas. Donc, là-dessus, on a vraiment un impact possible, surtout dans un gouvernement minoritaire. Et je pense qu'on s'entend avec les deux autres partis d'opposition pour demander les transferts en santé sans condition. On va être capable, si on travaille fort, à ce moment-là, bien, le gouvernement minoritaire n'aura pas le choix.
Exact. Puis aussi, c'est là qu'on voit justement toute la structure, hein, parce que ça découle du fédéral, qui s'en vient vers le provincial, qui va nous aider à avoir des services ici là, qui vont nous impacter directement. Il y a un plus grand délai, une plus grande distance, mais au final, on est tous vers le même but.
Et c'est un argument de plus pour la souveraineté du Québec, parce que dites-vous que si le Québec est un pays, on n'aurait pas à dealer avec les transferts en santé du fédéral.
En effet. Et vous avez aussi dernièrement fait une sortie là, avec votre collègue M. Mario Simard. On s'en est rappelé en même temps. Concernant l'aluminium, hein. Oui. Entre autres, décrier un peu justement le manque d'intérêt du fédéral ou le manque d'investissement, en tout cas, du niveau gouvernemental, puisqu'il y a eu des investissements de Rio Tinto pour Jonquière, entre autres. Mm-hmm. Et là, on se dit, est-ce qu'on pourrait en faire plus? Est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait en faire plus pour cette industrie?
C'est certain qu'il faut en faire plus. Comme d'habitude, le gouvernement Trudeau va s'occuper de l'automobile en Ontario, puis du pétrole en Alberta. Ça, on le sait. Maintenant, il faut encore une fois profiter du fait que c'est un gouvernement minoritaire. Nous autres, on a une belle proposition. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les tarifs, les contre-tarifs canadiens, on a perçu de l'argent. Et cet argent-là devait retourner au secteur de l'aluminium et de l'acier parce que c'était les deux secteurs touchés. Mais il y a 200 millions qui n'a jamais été envoyé nulle part. Okay. On ne sait pas ce qui est arrivé avec. Le directeur du budget nous a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé avec ces 200 millions-là. Donc, il y a de l'argent là. Nous autres, ce qu'on demande, c'est comme l'aluminium, la production canadienne, c'est 90 % au Québec qui est produite, bien, on veut minimum un fonds de 120 millions pour aider, un fonds pérenne là, pour aider la deuxième, troisième transformation régionalement. Okay. Et donc, en prenant ce 120 millions-là, bien, des compagnies ou des entreprises pourraient emprunter dans ce fonds-là sans intérêt, devoir le remettre, mais sans intérêt. Donc, ce fonds-là continue toujours à rouler parce qu'à chaque fois, il est remboursé. Avec les intérêts même, ce fonds-là va prendre de l'ampleur avec le temps. Et puis, on va faciliter la deuxième, troisième transformation. C'est ce qui nous manque ici, présentement. Si on regarde ça de plus près, la deuxième, troisième transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des emplois de bonne qualité, ça veut dire de la valeur ajoutée pour la région. Et ça veut aussi dire être moins en danger par rapport au prix du marché américain, parce qu'on va le transformer ici. Mm-hmm. Les Américains auront moins d'impact sur l'aluminium primaire, puisqu'on aura de la deuxième, troisième transformation ici. Donc, c'est une des propositions qu'on met de l'avant. Vous voyez, je te l'avais dit, on est un parti de proposition. Et encore une fois, c'est salué par les gens du milieu. Donc, c'est toujours pas mal le même modus operandi au bloc, là. On va se connecter avec le milieu, on concerte le milieu. Après ça, bien, on arrive avec des solutions qui viennent du milieu, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Puis ça nous prend des gens dont c'est leur quotidien, c'est leur réalité, qui nous disent « voici ce dont on a besoin ». Et c'est entre autres pour ça qu'on siège sur la table de concertation régionale de l'aluminium, Mario et moi. Mm-hmm. On attend toujours M. Martel. Là, on voudrait bien qu'il se joigne à nous pour qu'on soit les trois comtés là, représentés, parce que les élus municipaux sont tous là. Certains acteurs du milieu siègent à cette table-là aussi. Il manque juste notre ami Richard. Et on attend impatiemment qu'il se joigne à nous. Je suis convaincu qu'il va le faire éventuellement.
Et ce qui est intéressant aussi pour notre MRC à nous, c'est que la deuxième, troisième transformation, ça pourrait s'en venir ici.
Bien, complètement. C'est pour ça que quand on parle d'économie circulaire, on a une grosse usine à Alma qui est tout près de la MRC Maria-Chapdelaine. Mm-hmm. La deuxième, troisième transformation peut se faire dans Maria-Chapdelaine. Mm-hmm. Et pour nous, ça, c'est là-dessus qu'il faut... met de la pression parce qu'on veut que les gens du lac Saint-Jean profitent au maximum de cette ressource-là, qu'est l'aluminium. Et présentement, c'est pas assez fait.
Mm-hmm. Parce que c'est la force aussi de notre région. On y, t'sais, oui, on a chacun nos affaires, mais on est capable de bien se regrouper là, pour aller travailler ces dossiers-là. Puis il ne faut pas penser que l'aluminium, ça ne nous touche pas parce
Exactement.
Qu'on est plus dans le haut du lac. Là. C'est sûr que ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre.
Tout à fait. Et c'est extrêmement important même. Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Et là, on en a parlé un peu en début d'entrevue. Tu reviens de Prague.
Oui.
Explique-nous un peu comment ça s'est passé.
Bien, j'ai le dossier des droits internationaux de la personne pour le Bloc québécois et celui de l'immigration, comme je l'ai dit tantôt, mais... Celui des droits de la personne, évidemment, on a fait une étude au Comité des droits internationaux de la personne sur ce qui se passe présentement en Chine, dans la région du Xinjiang, sur les populations ouïghours, le peuple ouïghour et d'autres peuples turciques, là, musulmans. La Chine est en train de commettre un génocide. Ça, les preuves sont là. C'est documenté. Il y a des parlements à travers la planète qui ont nommé ce génocide-là, dont l'administration Biden, mais dont... La Chambre des communes, pas plus tard qu'en février 2021, mm-hmm. on a voté une motion qui nommait le génocide et que j'avais amendé cette motion-là demandant la relocalisation des Jeux si la Chine continuait dans sa logique génocidaire. Ça a été adopté à l'unanimité. Donc, le gouvernement canadien ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il a lui-même voté pour cette motion-là. Mm-hmm. Et maintenant, bien, comme je suis un partenaire des Ouïghours depuis le début... j'ai écrit une résolution que j'ai amenée, j'ai été invité au Congrès mondial Ouïghour à Prague et les 200 délégués Ouïghours qui venaient d'une vingtaine de pays ont voté ma résolution, ont adopté ma résolution à l'unanimité. Cette résolution-là, elle n'est pas compliquée. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit « Reportons les Jeux de Pékin pour laisser une mission d'observation internationale sous l'égide de l'ONU faire une enquête à savoir s'il y a effectivement violation ou non des droits de la personne sur les Ouïghours. » Si la Chine refuse cette mission-là, on relocalise les Jeux ailleurs. On ne peut pas laisser faire ça. Et si cette mission-là vient à la conclusion qu'effectivement, un génocide en Chine, bien, on relocalise les Jeux. On ne peut pas envoyer... On peut pas faire des Jeux olympiques dans un pays où il y a effectivement un génocide et où on a l'ONU qui le dit. Donc, c'est assez simple, c'est précis, c'est bref. Mais en faisant voter cette résolution-là, moi, je la ramène ici et je me suis fait beaucoup de contacts avec des parlementaires d'Europe et des États-Unis sur place, et je pousse très fort pour qu'eux aussi déposent cette motion-là, cette résolution-là, dans leur propre Parlement. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, on fait une action multilatérale et on vient mettre de la pression sur le CIO. Ça va-tu fonctionner? Moi, je ne peux pas promettre les résultats. Il faut juste en parler, continuer le combat. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les Ouïghours, c'est un peu loin du lac Saint-Jean, mais on est tous des êtres humains. » Je pense que les Genois, Genoises sont reconnus comme des gens sensibles puis des gens empathiques. Et ça, je me le fais dire dans la rue, là. C'est important ce que tu fais, même si, oui, ça se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, que tu portes ce combat-là, bien, ça nous rend fiers. Il y a des gens qui me disent « Ça me rend fiers comme Genois, Genoise, que tu portes ce combat-là. » Et il y a crainte, là, je suis capable de marcher de la gomme et de marcher en même temps. Je peux m'occuper des dossiers du bois, de l'aluminium, comme pour celui des Ouïghours.
Et j'en doute pas, puis c'est aussi le dossier des Jeux olympiques, en fait. T'sais, oui, ouais. Effectivement, très important tout ce qui se passe, mais on se rend pas compte, mais c'est un levier quand même assez important, surtout pour la Chine, je pense. Donc, de leur retirer ça, c'est un peu de faire une grosse action, en fait, pour...
Oui, parce qu'on a essayé des mesures économiques, de viser aussi des sanctions sur des dirigeants chinois. Ça continue. Qu'est-ce qui fait le plus mal à court terme à la Chine? C'est si on attaque sa fierté, son orgueil. Et là, présentement, les Jeux olympiques, si on les repousse... Parce que, premièrement, la population chinoise n'est pas au courant. Il faut faire une différence entre la population chinoise mm-hmm. et le régime chinois.
Oui.
Et c'est très important. La population chinoise n'est pas au courant de ce qui se passe au Xinjiang. Les outils de propagande du gouvernement là-bas sont trop puissants. Mm-hmm. Ils ont juste les lignes du gouvernement. Donc, pour eux, les Ouïghours, ce sont des terroristes, alors que c'est probablement un des peuples les plus ouverts que j'ai rencontrés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que oui, c'est un levier intéressant parce que, comme je l'ai dit, on attaque leur fierté, leur orgueil. Et si on repousse les Jeux, ils vont être obligés d'expliquer à leur population pourquoi, mm-hmm. soudainement, Pékin est repoussé. Et donc, c'est sûr que ça va leur faire mal. C'est sûr que je me fais pas d'amis. Probablement que je verrai pas la Grande Muraille de Chine de mon vivant. Mais pour l'instant, c'est pas ça ma priorité. Et puis, faut utiliser tous les moyens qu'on a. Et ceux qui disent que c'est pas correct d'utiliser nos athlètes à des fins politiques, c'est pas ce que je fais. Premièrement, un génocide, c'est pas politique, c'est des droits humains. Mais en même temps, il n'y a rien de plus politique que les Jeux olympiques.
Que les Jeux olympiques, ouais.
La Chine, si on ne se sert pas du levier des Jeux olympiques, eux vont se servir de nos athlètes pour redorer leur image au niveau international et aussi pour la politique domestique, en montrant à quel point leur régime est grandiose aux yeux même de leur propre population qui ne se rendront pas compte de ce qui se passe. Un peu comme Hitler avait fait en 1936 aux Jeux de Berlin. Bien, ça a été... lorsque les Jeux de Berlin ont eu lieu en 1936, Hitler a fait un gros show avec ça et s'est positionné comme une force mondiale et à l'international, et aux yeux de sa propre population. Il faut éviter ça à tout prix. Il faut être du bon côté de l'histoire. Moi, je serais pas capable de me regarder dans le miroir en sachant ce qui se passe au Xinjiang. Tu sais, quand on a fait l'étude au sous-comité, là, on l'a fait à huis clos pour protéger les victimes qui venaient témoigner. On a entendu des histoires d'horreur, donc je vous répéterai pas ce qui s'est passé là-bas, mais c'est des histoires d'horreur qui se passe présentement là-bas. C'est du travail forcé, c'est de la stérilisation forcée des femmes. C'est des camps de concentration. On estime entre 1 et 2 millions de Ouïghours qui sont présentement dans des camps de concentration. Est-ce qu'on peut vraiment laisser ça aller? Moi, comme porte-parole des droits internationaux de la personne, je peux pas. Donc, je continue ce combat-là.
Mais on va souhaiter que ça se solde par quelque chose de positif d'ici 2022. Il reste peu de temps.
Il reste peu de temps. Il y aura plusieurs... Si ça ne fonctionne pas, j'ai des plans B, puis C, puis D, puis E.
Parfait.
Ça, il n'y a pas de trouble là-dessus.
Bien, écoute, ça a conclu déjà notre rencontre. Ça a été très vite.
J'ai pas le temps de finir mon café.
Non, t'auras le temps quand même. Je te mets pas dehors. Mais je constate aussi que tu es bien occupé. Effectivement, tu as beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à penser. Donc, j'apprécie que tu aies pris le temps de venir me rencontrer et rencontrer par la bande nos auditeurs. Je te souhaite, il est un peu tôt, mais joyeuse fête.
Hey, merci beaucoup. Joyeuse fête à tout le monde.
Et à la prochaine, assurément. Donc, c'était Alexis Brunel-Duceppe, le député de Lac-Saint-Jean. Et c'est ce qui conclut aussi notre saison d'Accès et Merci 2021. On se retrouve en 2022. Joyeuses fêtes à tous.
On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leurs réalisations.